pays disparus. Les États que l'histoire a rayés de la carte. Tiré du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement. Les deux Siciles, de 1816 à 1860. Population, 8 703 000. Superficie, 111 900 km². Le roi Ferdinand Ier est âgé de seulement 8 ans lorsqu'il monte sur le trône en 1759. Entré dans la vingtaine, sa préoccupation principale consiste à échafauder des projets spectaculaires en vue du prochain Gran Gala, l'une des rares occasions où il daigne distiller quelques gouttes de son opulence au bas peuple. Les royaumes respectifs de Naples et de Sicile ont déjà été unifiés à plusieurs reprises par le passé pour ne former qu'une seule et même entité, les deux Siciles, lorsqu'à partir de 1735, le père de Ferdinand Ier, Charles III d'Espagne, rétablit une nouvelle fois l'alliance des deux territoires et choisit Naples comme capitale de son règne. Le nouveau pays ainsi constitué s'étend, au nord jusqu'aux États pontificaux et à l'échelle européenne, peut se targuer d'avoir une vaste superficie. Napoléon met un terme à ses extravagances lorsque, en 1799, il conquiert la partie napolitaine du royaume. Ferdinand Ier trouve refuge en Sicile, où il jouit de la protection d'une marine britannique lourdement armée. Il revient au pouvoir avec la naissance du royaume des deux Siciles après le congrès de Vienne, en 1816, non sans avoir promis aux Anglais des réformes sociales en accord avec les nouvelles conceptions progressistes et libérales en vogue en Europe à cette époque. Là, il oublie vite sa parole et poursuit de plus belle son règne absolutiste, avec pour seul souci la défense des biens et intérêts de l'aristocratie. Le mécontentement gagne la population urbaine, au point que les révoltes finissent par éclater en Sicile et à Naples. Ferdinand Ier rétorque par un régime de terreur incarné par la présence d'espions et marqué par des exécutions sommaires. Cette politique est perpétuée avec la même implacabilité pour ses successeurs, notamment son petit-fils Ferdinand II, lequel hérite du sobriquet Il Re Bomba, le roi bombe, pour avoir maté un soulèvement à Palerme en 1849 avec des canonnades aussi peu précises que massives tirées depuis ses navires de guerre. Durant la décennie 1850, l'écrivaine britannique Julia Kavanagh arpente le royaume des deux Siciles avec le désir d'exaucer ses rêves de jeunesse. Gravir le sommet des volcans de l'Etna et du Vésuve, flâner dans la nature méditerranéenne, vêtu d'une robe en mousseline, visiter les églises et les ruines des conquêtes passées. Mais cette vision romantique tourne vite au cauchemar et son journal intime est jalonné de ses confrontations constantes avec l'injustice, la pauvreté, l'analphabétisme et le délabrement. Avant que le vapeur censé la conduire à Palerme ne quitte le port de Naples, les rares passagers à bord se rassemblent sur la poupe et suivent du regard les allées et venues d'un jeune garçon escortant les bateaux qui entrent et sortent dans la rade. Âgé de 9 ans tout au plus et vêtu de haillons, il n'en a pas moins un visage italien éveillé, ainsi qu'elle l'écrit dans son journal. Dans sa petite embarcation, à 4 rames, il donne une représentation où il danse la tarentelle, fait le clown, chante une aria, puis reçoit un coup de poignard dans le cœur donné par un ennemi invisible et finit, les yeux révulsés, par tomber raide mort au fond de son esquif. L'instant d'après, il se relève d'un bond, cette fois brandissant son bonnet au fond duquel atterrissent quelques pièces de cuivre. Julia Kavanagh pousse un soupir de soulagement lorsque le vapeur s'éloigne enfin de la baie. Naples, en s'estompant, prit une apparence infiniment meilleure avec un peu de distance. Le désespoir se manifeste en premier lieu dans les villes. Dans les campagnes, on va rarement se coucher la faim au ventre, mais la vie se poursuit selon le même modèle féodal qui prévaut depuis des siècles. Située à 150 km au sud de Naples, la région du Cilento s'amorce sur une côte rocheuse, se vallonne au gré des terrains parsemés d'oliviers sauvages, d'eucalyptus et d'arbustes de mitre, se prolonge dans des forêts de chênes et d'aubépines, pour enfin se terminer au pied des montagnes, coiffées de neige éternelle. Bâties à flanc de coteaux ou perchées au sommet de collines, les villages souvent fortifiés forment des blocs compacts, magnifiés par des maisons ocre terre de Sienne aux toits en tuiles rouges. Leur aspect imposant est rehaussé par la présence de palais luxueux appartenant en cette première moitié du 19e siècle à de riches barons. Mais la superbe s'arrête là, car à l'époque du royaume des deux Siciles, plus on s'enfonce dans ce dédale de ruelles pavées et de passages étroits, plus l'odeur est pestilentielle, à cause des égouts à ciel ouvert ou des animaux qui dorment dans les sous-sols. Si une visite vous y conduit aujourd'hui, vous constaterez que la puanteur a disparu. Les villages ont toutefois conservé quelque chose d'atemporel, rappelant de petits royaumes tout droit sortis d'un conte de fées. Ce à quoi en réalité ne s'apparente guère, car du temps des deux Siciles, sous des airs de baronnie servile et soumise au pouvoir central de Naples, des luttes intestines constantes parcourent l'ensemble des villages. Les deux Siciles ont existé jusqu'en 1860. Cette année-là, le général Giuseppe Garibaldi renverse le jeune roi François II. Avec l'aide prudente du royaume de Sardaigne, il débarque sur les côtes siciliennes le 11 mai 1860 à bord de deux navires de 1000 hommes. Rejoint par 3000 combattants volontaires siciliens, l'expédition ainsi formée conquiert Palerme, puis après le détroit de Messine, Naples. L'écrivain italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa tient un matériau de première main sur cette période grâce à l'implication de son arrière-grand-père dans la révolution garibaldienne. Dans son célèbre roman « Le Guépard », publié en 1958 à titre posthume en Italie, nous assistons à la destinée du prince Salina ou Don Fabrizio Corbera lors des derniers jours précédant la chute de Palerme. Cet homme ambigu vit avec le reste de sa famille entouré de son prêtre attitré et de son personnel de maison, comme tout bon aristocrate de la ville. Dans un palais au plafond orné de fresques romaines disposant d'un vaste jardin agrémenté de statues de divinités. C'est justement là que commence peu ou prou le roman. Dans ce jardin, d'où monte une odeur putride, celle du cadavre éventré d'un soldat du 5e bataillon de chasseurs. Blessé dans les combats de San Lorenzo et venu mourir dans la noble bâtisse, seul, sous un citronnier. Les nuits suivantes, on voit les révolutionnaires garibaldiens allumer des feux dans les montagnes. Au sud et à l'ouest, lointains et silencieux, ces incendies n'en menacent pas moins la ville royale. Le neveu d'Ala Famille, Tancredi, interprété par Alain Delon, dans l'adaptation au cinéma de Luchino Visconti, choisit de se rallier aux insurgés, non sans passer par la bibliothèque où séjourne son oncle Don Fabrizio avec son chien danois, Bendico. Il tente de lui exposer son point de vue et prononce cette phrase devenue mémorable. « Crois-moi, mon petit oncle, si nous ne nous en mêlons pas, ils vont nous fabriquer une république. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. » Le prince Salina se garde bien de répondre, mais frotte si fort entre ses deux doigts l'oreille du pauvre animal que ce dernier hurle de douleur. Ce même soir, au dîner, les adieux de Tancredi provoquent des escarmouches autour de la table familiale. Don Fabrizio essaie de calmer les esprits en expliquant la faible efficacité des fusils de l'armée royale, l'absence de rayures dans les canons de ses armes surdimensionnées, empêchant les projectiles d'avoir suffisamment d'impact.
Prince ! Il est mort !
Attendez !
Papa !
Mort au Bourbon !
Avec les affrontements en ville, toutes les familles liées au Bourbon sont en danger.
Une armée s'apprête à débarquer, vous le comprenez, oui ou non ?
Ça suffit.
Notre vanité est plus forte que n'importe quelle armée.
Cher oncle,
ici vous êtes tous en sécurité.
Oui, papa.
Tu as décidé d'aller te battre à leur côté ?
Concetta, écoute-moi. On pourrait s'enfuir ensemble, tous les deux.
Don Calogero Sedara.
Ma fille.
Mademoiselle Angelica Sedara.
Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut.
Il veut quoi ?
Vous !
Je voudrais leur mort. Tous ces gens qui veulent nous marcher dessus.
Ceux qui nous sourient, nous font la révérence le jour, et qui viennent nous voler la nuit. Si j'avais été un roi païen, je les aurais tous fait tuer.
Alors les guépards se sont envahis ?
La prière pourra libérer votre esprit.
Je vous présente mes excuses. Tu te souviens de notre première danse ?
Vive l'Italie unie !
Concetta.
Il est évident que je suis un homme faible. Après tout, c'est votre âme. Le pays a besoin de la Sicile, et il a aussi besoin du guépard.
Tancredi, comme le reste de la famille, survit au tumulte et assiste à l'unification de l'Italie en une monarchie dirigée par le roi Victor Emmanuel II de Sardaigne. Celui-ci met aussitôt en œuvre des réformes sociales qui incluent notamment l'instruction primaire obligatoire et l'amélioration du système de santé. L'Italie du Sud demeure malgré tout une région plus pauvre que le Nord. Nombre de ses habitants sont contraints d'émigrer aux États-Unis où la mafia les accueille à bras ouverts, prête à enrôler les plus forcenés d'entre eux. C'était Pays disparu, extrait du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement.